Sans grande surprise, François Bayrou n'a pas obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. Elle lui a au contraire été refusée par 364 voix contre 194, un score encore plus élevé que les 331 voix qui avaient censuré le gouvernement de Michel Barnier. Ce vote démontre que la force de la vague coalition du centre ne cesse de s'affaiblir et qu'un compromis sur le budget, en l'état, paraît de plus en plus introuvable. La grande question politique du moment est désormais du côté de la réponse à apporter à cette crise, dans la crise, question sur laquelle, bien entendu, personne n'est d'accord, alors que la colère populaire gronde plus que jamais. La crise dans la crise s'aggrave, la Ve République vient de sauter dans l'inconnu, enfin, pour ceux qui n'ont pas de modèle. Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 8 septembre 2025, il est 21h33. Bienvenue dans ce live spécial en compagnie de notre excellente Iruma qui est à la technique ce soir et qui m'a fait commencer à l'heure. Salut, t'as mis ta tête de chat, j'adore. Ah, en haut. C'est ça aussi qui vous a valu le vieux générique puisque... Puisque Iruma n'a pas le nouveau, mais on s'est dit qu'après tout, ça, c'était bien ça. Ça mettait un petit coup de fouet et ça rappelait des bons souvenirs à tous les copains présents en ce jour, qui est quand même important. C'est bien d'avoir les souvenirs, c'est bien de revenir aux bases aussi, parce que finalement, on commence à voir se déployer des choses qu'on attend, que vous attendez, nombreux que vous êtes sur cette chaîne depuis un moment. C'est-à-dire l'effondrement de la Ve République progressif, pour lequel cette semaine, hein, c'est le titre de mon précédent live, devrait être décisive, ou en tout cas avoir des aspects extrêmement importants. Je pense qu'on va être amené à se revoir cette semaine au cours de live spéciaux. La grande question, c'est combien de fois demain soir, Macron a annoncé qu'il parlait à 20h, peut-être que ça vaudra le coup de parler. Peut-être que finalement j'attendrai mercredi, qui est le jour des manifestations. Il n'est pas impossible non plus que finalement je parle demain, mais pas mercredi, si j'estime qu'il faut laisser les manifestations se détendre un peu, s'accumuler pour avoir plus de... Enfin bon, on verra, voilà, c'est pas arrêté. Il est possible aussi que je fasse des émissions tous les soirs en fonction de tout ce qui se passera. Ça peut être parce que bon, bien sûr, souvenez-vous de la dernière dissolution qu'il y avait eu. Aussitôt, on avait eu des épopées dans l'épopée avec le coup d'État chez LR, etc., qui en soi méritait des émissions tellement c'était amusant et important à commenter. Donc c'est pas impossible qu'on voit aussi ce genre de choses cette semaine. Mais bon, déjà, on part sur une première étape qui devait se dérouler et qui s'est déroulée. Donc sans grande surprise, hein, maintenant on était avertis, on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises, mais il n'y en a pas eu. À savoir que François Bayrou a été éjecté de son siège et donc n'est plus notre Premier ministre et qu'à nouveau la France n'a plus de gouvernement et entre dans une séquence qui risque d'être agitée. Risque d'autant plus d'être agitée que quoi qu'il ait eu des entretiens avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, des consultations comme l'impose l'article 12 de la Constitution pour le cas de la dissolution, il semble qu'Emmanuel Macron ne s'oriente toujours pas vers ça et qu'il pense nommer un Premier ministre. Alors peut-être qu'il a dit ça juste pour ne pas gâcher sa surprise, que par narcissisme, il veut conserver, c'est pas possible, hein, il veut conserver l'annonce de la dissolution comme un scoop pendant son allocution de demain. En tout cas, ce qui est assez clair, c'est qu'il n'a vraisemblablement pas l'intention de démissionner. Je vais y revenir rapidement. Mais voilà. Comme c'est un live spécial, il n'y aura pas de live privé après, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et Hiruma se chargera de les sélectionner, bien sûr en donnant la priorité à ceux qui nous soutiennent, comme d'habitude. Alors, moi, ce que j'ai retenu, j'ai essayé de suivre la séquence autant que faire se peut, j'étais au boulot, j'avais des dossiers à conclure en même temps, donc d'une oreille, je concluais mes dossiers, de l'autre oreille, j'écoutais ce qui se disait. J'ai essayé d'écouter les discours qui me paraissaient vraiment importants, ceux en particulier pour lesquels je n'avais pas d'idée exacte du positionnement. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, ce qui m'a intéressé aujourd'hui. On n'est pas juste là pour répéter ce qui s'est passé dans le live précédent. Il y a eu des informations. C'est pas, on ne vient pas juste dire Bayrou est tombé, voilà. Non, non, il y a des informations. Ces informations sont celles qui sont passées pendant tous les discours des différents groupes parlementaires avant de ne pas voter la confiance à Bayrou. Et l'intérêt de ces discours, c'est qu'on y voit les stratégies différentes des divers partis. C'est pour ça que je parlais en fait en introduction du fait que c'est une crise dans la crise. C'est-à-dire que en soi, le fait que Bayrou tombe, au-delà du fait qu'il nous faut un Premier ministre pour le budget, etc., la simple question de savoir comment réagir à ça fait débat. Et en fait, au sein de l'hémicycle, on s'aperçoit que les positions sont à peu près par tiers, d'ailleurs, divisées sur ce qu'il faut faire. C'est assez simple. Alors, côté LFI et gauche dure, on va dire, étendue, la position, clairement, c'est la démission du président de la République. C'est ce à quoi Mathilde Panot a appelé pendant son allocution, et Emmanuel Bompard a annoncé ce matin qu'ils allaient déposer une motion de destitution demain. Il l'a annoncé sur France Info, on le savait déjà, c'était prévu, mais enfin, on n'avait pas la date, et ils vont le faire demain. Je reviendrai sur la motion de destitution après, mais ça, c'est la position LFI. La position LFI, c'est, ils ne demandent pas de dissolution, ils demandent une démission du président de la République. Ensuite, on a la position du centre en général, et là, le centre, c'est Renaissance, c'est Horizon, LR, et c'est LR, d'ailleurs, non, et c'est le Parti Socialiste, voilà, c'est ce que j'oubliais. Eux, clairement, ils sont pour la nomination d'un nouveau gouvernement, c'est-à-dire pas de dissolution immédiate, semble-t-il. Bien sûr, les socialistes, eux, leur idée, c'est d'essayer de faire nommer un gouvernement de gauche, Nouveau Front Populaire, avec des socialistes à la tête, c'est l'hypothèse que disait Olivier Faure, mais un vrai gouvernement de gauche, c'est-à-dire pas un gouvernement de coalition, un gouvernement de gauche qui pourrait s'appuyer sur des majorités, texte par texte, comme il dit. Ça, c'est la position qui a été défendue par Boris Vallaud, donc, mais qui se rattache à la position centriste, qui est pas de dissolution, on fait un autre, on trouve un autre Premier ministre, mais à condition qu'il soit de gauche, bien sûr. Et la dernière position, c'est la position qui va de l'UDR de Ciotti au Rassemblement national. Hein. Et là, la position, c'est il faut une dissolution. Donc retour aux urnes, mais aux urnes parlementaires. Et Marine Le Pen a bien souligné dans son discours qu'elle n'attendait pas et qu'elle ne demandait pas la démission du chef de l'État. Que pour elle, ça viendra en temps et en heure. Hein, il y a l'idée de se présenter comme respectant les institutions, etc. Même si, et ça c'est intéressant aussi, il y a quand même une porte qui est laissée ouverte côté Rassemblement national. Je vais y revenir. Mais enfin, pour l'instant, si vous voulez, voilà, on a trois blocs. On a le bloc démission du président de la République, le bloc dissolution et le bloc centriste qui est maintien. C'est intéressant en soi qu'il y ait des positions différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, côté RN, et ça c'était dans le discours de Marine Le Pen, elle a quand même commencé par dire malgré tout que, en gros, Macron aurait dû démissionner et que le général de Gaulle, lui, à sa place, il aurait démissionné, en gros, mais qu'elle ne comptait pas là-dessus et donc c'est pour ça qu'elle demandait la dissolution. Donc, même si la position c'est dissolution, il y a quand même en fond la petite idée que Macron devrait démissionner. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans la façon dont elle a argumenté la question de la dissolution. C'est qu'elle l'a liée, en fait, à la possible question d'une destitution, sans le dire, mais elle l'a fait. Elle l'a fait en disant que les commentateurs disaient beaucoup qu'il n'y aurait pas de dissolution ou qu'Emmanuel Macron ne voulait pas dissoudre parce qu'il n'y avait pas intérêt. Et elle a souligné, ce qui est vrai, que le président de la République est le garant des institutions, de leur fonctionnement, et qu'il doit agir dans l'intérêt du pays. Et que ce n'est pas son caprice ou son intérêt à lui qu'il le poursuit, mais l'intérêt du pays. Donc, s'il y a un intérêt à dissoudre et une nécessité de dissoudre, ce dont elle argumente que c'est le cas après cette chute de gouvernement, ça sous-entend que si Emmanuel Macron refusait de dissoudre, alors ça voudrait dire qu'il n'agit pas dans l'intérêt supérieur de la nation, mais dans son intérêt propre. Et là où pour moi c'est intéressant, c'est que ça vous fait retomber sur les cas possibles de destitution. Ça. C'est-à-dire que le président qui ne respecte pas la... qui ne respecte pas l'intérêt de la supérieure de la nation, justement, qui viole cet intérêt, j'entends la chercher, manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc l'idée, ça serait ça, en fait. Et donc c'est très intéressant, je trouve, que Marine Le Pen, sans appeler à la démission, ni même à la destitution d'Emmanuel Macron, lie la question de la dissolution avec cette question. Donc la menace implicite, alors je ne sais pas si les gens auront lu la menace implicite, mais quand même je pense que oui, c'est il faut dissoudre, parce que si vous refusez de dissoudre, là nous on va rejoindre LFI sur sa motion de destitution. Et c'est une position que je trouve intéressante, parce que ça n'insulte pas l'avenir, et ça montre qu'il y a un point de convergence possible, même si la position de base n'est pas exactement la même, entre LFI et le Rassemblement National. Alors naturellement, la destitution, il y a très peu de chances qu'elle passe. Puisque la destitution, il faut que, d'abord, il faut que une chambre la valide. Pour qu'elle soit validée, il faut que alors d'abord, il y a le dépôt. Le dépôt, il faut que ce soit 10% des membres de chaque chambre, mais enfin, le LFI a assez à lui tout seul pour avoir 10% du... puisque c'est 58, ils sont à plus de 60, donc non, ils ont tout ce qu'il faut. Donc simplement après, elle doit être votée par les deux tiers des membres de la Chambre, et ensuite, ça doit être voté par les deux tiers des membres de l'autre Chambre. C'est-à-dire en fait, il vous faut une aussi grosse majorité, et peut-être même une majorité encore plus compliquée que pour faire une modification constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que pour une modification constitutionnelle, il vous faut les deux tiers du Parlement réunis en Congrès, c'est-à-dire Sénat plus Assemblée nationale. Donc vous pouvez avoir moins des deux tiers des sénateurs ou moins des deux tiers de l'Assemblée, mais avoir les deux tiers de l'ensemble selon la façon dont ça se goupille. Hein ? Donc il y a une souplesse, en tout cas une souplesse supplémentaire dans la réforme constitutionnelle qu'il n'y a pas dans la destitution. Dans la destitution, il faut que chaque chambre individuellement vote aux deux tiers, ce qui est quand même plus lourd comme procédure. Donc c'est pour ça que il y a quasiment pas de chance que ça passe, puisque la majorité au Sénat est les Républicains. Donc même si ça passait à l'Assemblée nationale, c'est très compliqué que ça passe au Sénat. Cependant, déjà, ça entraîne des débats. Et donc ça me fait mauvais effet qu'il y ait des débats là-dessus à l'Assemblée. Ensuite, l'autre chose sur laquelle Manuel Bompard avait tout à fait raison, parce qu'il a été interrogé ce matin sur France Info, et il a dit, parce qu'on lui a dit, il n'y a aucune chance que ça passe, et il disait, oui, mais regardez, par exemple, nous, on avait l'intention, le 23 septembre, de déposer une motion de censure, on nous disait aussi que ça ne passerait pas ou que ça serait trop compliqué. Résultat, finalement, en fait, il va sauter 15 jours avant la date à laquelle on pensait déposer la motion de censure, parce qu'il a lâché l'affaire. Donc, vous ne savez pas comment ça peut avancer, donc, permettez-nous de tenter le coup, au moins. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très vrai, en fait, parce que, de fait, d'ici quelques semaines, qui serait le temps qu'il faudrait pour que tout ça se mette en place, il n'est pas du tout impossible que la motion d'institution ne puisse pas passer. Il n'est pas du tout impossible, s'il y a une dissolution et qu'il y a un changement de la composition de l'Assemblée nationale, qu'on se trouve avec une possibilité aux deux tiers de l'adhésion de l'Assemblée nationale au projet de destitution. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le Sénat voterait derrière ? Non, pas forcément. Mais, attention, il y aurait cet aspect politique d'abord de composition qui fait que l'Assemblée pourrait voter. Mais il y a d'autres choses, il y a la pression de la rue, il y a le blocage institutionnel. Et à ce moment-là, si vous vous trouvez dans ce genre de situation-là, ça sera fonction des manifestations qui n'ont pas encore commencé, mais j'en dirai deux mots. Mais en fonction, sous la pression de ce genre de pression de la rue, il n'est pas du tout impossible que vous ayez également le Sénat qui se dise il faut qu'on le dégage, parce que ça ne tiendra pas, parce que ce n'est pas possible, parce que le pays va finir à feu et à sang. C'est possible, surtout s'il fait un coup, genre tentative d'article 16 ou un truc comme ça. Donc le calcul n'est pas à exclure, mais avant ça, il faut bien se rendre compte de plusieurs choses. Même sans l'idée que la procédure, parce que la procédure on la regarde comme ça, on se dit oui c'est impossible que, mais il faut se souvenir qu'on parle de politique, c'est dynamique. Si dans quelques semaines, vous avez la motion d'institution qui est votée à l'Assemblée nationale, est-ce que véritablement, sous prétexte que le Sénat peut rejeter cette motion, est-ce que véritablement Emmanuel Macron pourrait se maintenir au pouvoir dans de telles conditions ? Est-ce qu'il ne serait pas forcé de démissionner dans ce cas-là, même s'il n'est pas destitué ? partir du moment où vous avez le Parlement qui a voté une motion d'institution. De toute façon, ça nous amènerait dans des eaux qui seraient des eaux de confrontation entre les pouvoirs très très dangereuses et qui sont ce que je vous répète depuis un moment, c'est-à-dire le moment où vous arrivez à un moment de flottement à la tête de l'État. Si vous avez un président qui est victime d'une motion d'institution et que, mettons, le Sénat, lui, ne la vote pas, mais derrière, quelle est la légitimité qui reste à la présidence? Si on ne trouve pas de Premier ministre et qu'il ne veut pas en nommer, quelle est sa légitimité à nommer un nouveau Premier ministre, par exemple? À partir du moment où l'Assemblée nationale le dit, nous on t'a destitué, pour nous tu n'es plus notre président, peut-être que tu es le président du Sénat, mais tu n'es plus le nôtre. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'il faut commencer à envisager ça. Il ne faut pas bêtement faire le juriste bloqué en allant voir le texte de la Constitution et dire non, mais ça ne peut pas passer comme ça. On parle de politique. Dans la politique, le texte, il a un intérêt qui est tout à fait secondaire. Il règle le truc, mais c'est comme n'importe quelle digue qui peut craquer en fonction de la pression des événements. Donc les Insoumis ont raison de jouer ce coup, et vraisemblablement, c'est ce coup-là qu'ils veulent tenter. C'est ce coup-là qu'ils veulent tenter, et la question, et là on va être suspendu, et là, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas le savoir avant, mais je pense qu'on aura d'autres, on n'aura pas à attendre longtemps, en tout cas pour voir où on va, ça va être suspendu beaucoup à l'effet de mercredi, et des premières manifestations, qui vont peut-être se reproduire, encore une fois. Je renvoie à ce que j'ai dit l'autre jour, il y a une participation projetée de 100 000 personnes, nous ont dit les médias, aussi, est-ce qu'il y a des consignes pour diminuer le truc, pour essayer de le prédégonfler en disant « de toute façon, ça ne va pas marcher, ce n'est même pas la peine de vous déplacer, hein, n'est-ce pas, mesdames et messieurs ?» Je rappelle que les moments très durs des Gilets jaunes, la mobilisation estimée était la même. D'après ce que j'ai lu tout à l'heure, ils vont quand même déployer 80 000 policiers et gendarmes sur le territoire. C'est quand même un dispositif qui me paraît d'une importance colossale. De mémoire, tiens, je n'ai pas vérifié. De mémoire, il n'y en avait pas autant pour les réformes des retraites. Je vais tenter de demander à Grok. Tu peux demander, Iruma, quel était le dispositif pendant les Gilets jaunes, le dispositif policier, qu'on ait une idée.
Ça marche.
Moi, je lui demande pour les retraites, on va voir ce qui va me sortir. Mais donc, 80 000 personnes, déjà, ça veut dire qu'ils ont un petit peu, ils sont un petit peu en stress. Ouais, vous voyez, je regarde. Le 28 mars 2023, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le déploiement d'un dispositif de sécurité inédit. Ça, c'était pour les retraites. Hein. Avec 13 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers la France, dont 5 500 à Paris. 13 000. Là... Et alors, c'était quoi? C'est, en plus, c'est le, je crois que c'est le Figaro, me semble-t-il, non, qui a sorti ce chiffre de 80 000. Attends, je vais vérifier. C'est tout à l'heure, quelqu'un l'a mis sur le canal. Je ne le retrouve pas. En tout cas, c'était un dispositif, je vous l'ai retrouvé de toute façon, hein. Ne vous inquiétez pas, si tu peux me le ressortir, et moi aussi, parce que là, je ne le vois pas.
Alors, pour les Gilets jaunes, j'ai ouais. 89 000 agents.
89 000, donc ça, voilà. Et oui, c'est ça, c'est bien le Figaro, 80 000 gendarmes et policiers. Donc, en fait, c'est ampleur Gilets jaunes. Hein. Donc, c'est très au-delà de ce qu'il y avait eu pour la réforme des retraites. Donc, on est quand même sur du haut niveau. Voilà, les mecs s'attendent à ce que ça saute. Et je comprends qu'ils s'attendent à ce que ça gueule. Alors, parce que je disais, ça dépendra de la mobilisation à ce moment-là, ça dépendra d'autres choses aussi, ça dépendra de ce que dit Emmanuel Macron demain. Parce que si Emmanuel Macron, demain, dit « je ne vais pas », parce que c'est pas ce qu'il dit, il va pas dire qu'il va démissionner, ça en est sûr, il va peut-être dire qu'il ne va pas dissoudre. C'est-à-dire qu'il va peut-être nous faire une intervention pour nous expliquer pourquoi il ne dissoudra pas. Expliquant qu'il est le garant de l'institution, etc., que le peuple a parlé, qu'il ne va pas dissoudre tous les 4 matins, que ça coûterait trop cher, qu'on va avoir la note qui va être la note de la dette de la France qui va être notée à la fin de la semaine, etc., par Fitch. Donc peut-être qu'il va trouver un truc pour expliquer qu'il n'y a pas de dissolution. Déjà, je pense que s'il n'y a pas de dissolution, ça risque de rajouter un petit peu d'huile sur le feu du 10. Donc ça aussi, ça va avoir des jeux. C'est-à-dire que tout ça va percoler ensemble, disons. Il y a plusieurs leviers à activer. Ce matin, j'écoutais justement, pendant que Manuel Bompard était à France Info, on lui a posé des questions. Alors, c'est très intéressant. Toute la journée, France Info avait des envoyés spéciaux à Bar-le-Duc. Alors, pourquoi à Bar-le-Duc? Parce que, semble-t-il, cette commune est célèbre pour voter comme les Français. C'est-à-dire qu'en gros, à toutes les élections, elle vote de la même manière que le pays pris dans son ensemble. Donc c'est un thermomètre. En fait. C'est un thermomètre et c'était très intéressant parce qu'ils ont dit à Manuel Bompard, voilà, on écoute ce que disaient les Français à Bar-le-Duc et donc ils ont mis un extrait de micro-trottoir. Et je vous assure que c'est vrai, dans cet extrait, il n'y avait que deux personnes qui parlaient. La première, c'était un type qui répondait, donc quand on lui disait « qu'est-ce que vous pensez de la situation de ça ?», le type a répondu « faut que ça pète, il faut tout supprimer et repartir sur de bons rails ». Ça, c'est quasi le premier. La deuxième personne, c'était une femme, le premier c'était un homme, la deuxième a dit « ça fait 4 ans que j'attends le chaos, j'en peux plus, et grosso modo, il faut que ça pète aussi ». Donc, je trouve ça quand même assez fascinant. Que quand on fait micro-trottoir dans la ville qui vote comme les Français, vous tombiez sur deux personnes qui vous disent il faut que le système saute. Je veux dire, à partir de là, vous vous dites, vous commencez à vous dire qu'effectivement, ça dit quelque chose sur l'humeur du pays. Ça dit d'autant plus quelque chose sur l'humeur des pays, du pays que vous vous souviendrez des résultats de sondage que j'ai commenté il y a plus de 2 semaines, qui montraient que les gens étaient à bloc. Et on était encore au mois d'août. Là, maintenant, les gens sont rentrés, ils ont le nez dedans, ils ont eu toute la séquence Bayrou, ils ont eu le spectacle de cet après-midi encore. Donc, véritablement, on peut penser que tout ceci chauffe. Donc, à partir de là, encore une fois, je ne peux pas deviner en gros, mais l'idée que je commence à me faire une idée un petit peu plus nette de la façon dont les choses pourraient se passer et devraient se passer de la manière la plus logique. Vous savez que pendant des années, d'une certaine manière, parce que ça fait 3 ans que la chaîne existe, ça va faire 4 ans d'ailleurs, chaque fois que je vous parlais de ça, je vous parlais du schéma tel que je l'avais conçu, on va dire, en 2020, avec l'idée d'à quoi ressemblerait la révolution. Et là-dessus, je me basais sur les exemples historiques que je connaissais, que j'avais étudiés surtout à l'époque, les premiers. Donc il n'y avait pas l'Ukraine dedans. L'Ukraine, je rappelle que je l'ai rajouté dans la dernière vidéo synthétique qui est dans les essentiels en accès libre, hein, je vous rappelle, qui dure 40 minutes et dans laquelle vous avez en gros tout, j'explique le modèle de la révolution nationale et pourquoi ça arrive en France, pourquoi on est au début d'une révolution. Et donc ce que je pensais, c'est que en général, les révolutions commencent par l'arrivée d'un pouvoir constituant, donc qui se donne force constituante et qui décide qu'en gros l'ancien régime est terminé et qu'on va trouver une nouvelle constitution. C'est pour ça que pendant des années, moi, j'ai pensé que ça allait commencer sur un congrès, une forme de congrès qui serait convoqué justement pour réfléchir à la réforme constitutionnelle parce que la situation serait bloquée et que tout pèterait à ce moment-là, pendant qu'il y aurait le congrès, hein, façon Assemblée nationale. Je pense que ce n'est pas nécessairement le cas. L'idée maîtresse, en fait, c'était que le Parlement dans son ensemble, c'est-à-dire chambre haute et chambre basse, ce serait l'ensemble de la représentation nationale qui serait amené à pousser le président de la République dehors, en fait. C'était ça mon idée. Et donc pour moi, le Congrès, c'était le meilleur espace de ça parce qu'il y a véritablement une solennité et l'idée de se présenter comme un pouvoir alternatif finalement et à capacité constituante. Bon. Il n'y aura peut-être pas besoin de Congrès, notamment quand je réfléchis à l'exemple ukrainien, la Rada n'a pas eu besoin d'être dans une forme particulière pour déposer Yanukovych, par exemple. Donc ça ne s'est pas passé comme ça. Et je viens de vous expliquer comment les choses pourraient se passer sur une motion de destitution, soit menée jusqu'à la fin de la procédure, parce qu'il pourrait se passer aussi, par exemple, que si l'Assemblée nationale votait pour, ben le Sénat derrière, en plus avec la pression de la rue, se dise ben c'est le sens de l'histoire, on doit la voter aussi, même s'ils n'étaient pas chauds à la base, c'est possible aussi. Donc il y a plusieurs configurations que j'ai essayé d'esquisser rapidement, mais à mon avis, ce scénario de la destitution a tendance à devenir le plus vraisemblable. Une destitution, à mon avis, pour qu'elle ait lieu, il faudrait que, en gros, le Parlement continue sur sa lancée comme il est. Mais surtout, il faudrait que la crise sociale dans la rue ne se lance véritablement et ne s'apaise pas ou peu. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose qui dure, comme l'avaient fait les Gilets jaunes. Voilà. Et de manière peut-être plus violente, avec des blocages, parce que finalement, des blocages de dépôts de carburant, etc., même des choses de pillage de magasins, tout ça, on n'en a pas vu pendant les Gilets jaunes. Là, on est quand même sur quelque chose d'au-delà. Dans la dernière émission que j'ai faite, je vous ai mentionné aussi la possibilité qu'on se trouve face à des formes de grève de l'impôt, d'une manière ou d'une autre. Un retour à l'économie informelle, juste pour lutter contre le pouvoir. Et de manière très intéressante, précisément cette semaine, on a un exemple qui est apparu de ce genre de manipulation ou d'action possible, qui est celle de ces restaurateurs qui, en gros, décideraient de ne plus faire payer la TVA, si on les payait en liquide. En fait, c'est très simple parce que les restaurateurs parlent d'un rabais si vous payez en liquide, un rabais de 10%. La réalité, tout le monde a compris, c'est que ce n'est pas juste qu'ils vous font un rabais de 10%, c'est qu'en fait, ils ne vous font pas payer la TVA. Et s'ils ne vous font pas payer la TVA, c'est qu'ils n'ont aucune intention de la déclarer parce qu'ils ont l'intention de faire du black et de faire du black à mort. Donc, leur idée, c'est de transformer toute une partie de leur... Parce que d'habitude, les restaurateurs, ils ont toujours une part de black, mais de moins en moins parce que les gens paient en carte. L'idée, c'est de vous faire aller retirer votre argent pour que vous les payiez en liquide pour ne pas vous faire payer la TVA à vous. Donc, vous, ça vous fait économiser la TVA. Et eux, ça leur évite de la déclarer de toute façon. Donc, ça leur permet de faire du black, en fait. Donc, en fait, l'idée, c'est que les restaurateurs, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est veulent passer full black si possible en vous en faisant profiter, en diminuant partiellement le prix. Ça, c'est typiquement le genre de choses dont je parlais. Le genre de choses qui baisseraient considérablement les recettes de TVA. Et il ne faut pas oublier que la TVA, c'est le premier poste de recette de l'État, hein, comme taxe. Donc, si on commence à taper contre la TVA, parce qu'en plus, je dirais, les restaurateurs le font, c'est extrêmement facile à faire. Extrêmement facile à faire. Il suffit que vous le disiez à vos clients et que vos clients aillent au distributeur à côté, retirent de l'argent pour faire 10% d'économie ou 20% d'économie, peut-être dans d'autres secteurs où la TVA est à 20%. Il est tout à fait possible que ça arrive et ça peut se déployer comme une traînée de poudre. C'est-à-dire, en quelques semaines, vous pouvez avoir tout un pan de l'économie où les recettes de TVA fondent. Hein, avec des gens qui continuent de consommer, mais qui, pour tout bloquer, bloquent la TVA, en fait. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, naturellement, vous pouvez envoyer l'URSSAF pour faire des contrôles, mais encore une fois, après, on se retrouve dans une situation où si tout le monde commence à le faire, il suffit qu'il y ait quelques endroits où les contrôleurs TVA ne soient pas bien reçus, pour que, là aussi, ils lèvent le pied, que les types ne s'estiment pas assez payés pour aller risquer leur vie ou leur santé, et donc, lèvent le pied. Voire accepte des pots de vin aussi. Ça peut arriver aussi, hein, dans les circonstances difficiles d'un pays dont l'économie s'effondrerait petit à petit, parce que ça peut arriver aussi avec la notation. Hein. Encore une fois, on va avoir beaucoup de choses à dire cette semaine. Donc assez clairement, le pays est sous tension. On commence d'ores et déjà, peut-être plus vite que je ne pensais, à voir des éléments comme ça sur les possibilités de grève, n'est-ce pas ? Et de grève, j'ai envie de dire, de grève des gens qui travaillent, c'est-à-dire qu'en gros, les mecs continueraient de travailler comme ils font, mais de tout faire au black. C'est possible, hein ? C'est tout à fait possible. Et encore une fois, ce serait très politiquement difficile d'expliquer à ces gens, mais on va venir vous taper dessus avec des contrôles. Parce que, bon, vous voyez la situation dans laquelle le pays et la population du pays sera dans les semaines qui viennent. Donc, on va voir comment ça se déploie dans les jours qui viennent, mais voilà, à ce stade, le scénario qui me paraît le plus vraisemblable, c'est quelque chose, alors ça ne serait pas la semaine prochaine, hein, ça prendrait le temps que la procédure se déploie un peu et que les manifestations aussi, mais dans ce cas-là, vous pouvez avoir une destitution fin de l'année, début de l'année suivante. Modèle Maïdan d'ailleurs, hein, quand vous y pensez, Yanukovych, il est parti en février, les manifestations avaient commencé... C'était au mois de... Alors, je sais qu'il y en avait au mois de décembre, c'était peut-être commencé au mois de novembre, quelque chose comme ça. Donc ça peut mettre voilà, 3-4 mois, ça peut amener 2026 avec Macron qui serait toujours là, mais qui finirait par sauter plutôt donc, sur ce... Alors ça revient au même, je veux dire, par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire si vous avez une destitution par les deux chambres, ou par un vote, une procédure qui devrait être devant les deux chambres, mais qui fait le chemin devant une des deux, etc., plutôt que d'avoir un congrès, je veux dire, on ne va pas pinailler, je veux dire, ça relève de la même chose, hein. C'est un problème de duel entre le législatif et l'exécutif, et le législatif qui reprend la main, hein, ce qui est le principe d'une révolution nationale, toujours. Hein. Donc, pour le coup, on serait dans les clous. Mais en plus, c'est un scénario qui me paraît aujourd'hui, ça me paraît le plus plausible à ce stade. C'est encore toujours susceptible d'évoluer, hein. Toujours en mouvement et l'avenir, comme dit Maître Yoda, mais voilà, à mesure qu'on se rapproche, ça semble être en tout cas le chemin le plus évident. Bien sûr, il reste l'hypothèse que ça fasse un flop mercredi, peut-être d'autant plus si jamais il y a une dissolution, parce que peut-être que les gens auront moins envie d'aller manifester s'il y a la dissolution, dans un premier temps, on verra ça. Mais à ce moment-là, les problèmes réapparaîtront après la dissolution, et dans une autre forme encore, peut-être plus grave encore une fois, sur la question de la destitution, avec la recomposition de l'Assemblée elle-même. Donc on va voir tout ça se développer, et puis on aura l'occasion de façon de le détailler au fur et à mesure. En tout cas, à ce stade, voilà moi ce que je peux vous dire, et on va peut-être utiliser la deuxième moitié de cette émission pour répondre à vos éventuelles questions. Je pense qu'il y en a quelques-unes.
Oui, on remercie Dominique pour son don.
Merci.
Quand doivent-ils tenir pour battre la Troisième République ?
Jusqu'à quand? Alors, on a un régime qui a 63 ans. La Troisième République a duré 70 ans. Donc, il faudrait que ça tienne 7 ans encore. Ça me paraît un peu long. Après, tout dépend. Si vous partez du moment où les lois organiques de la Troisième République ont été votées, c'est en 1875, vous enlevez 5 ans, ça fait 65 ans, il faudrait que ça tienne 2 ans. Enfin, à ce moment-là, vous considérez, vous pourriez de la même manière dire que s'il faut retenir 1875 pour la Troisième République, alors, il faut retenir 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel, plutôt que 1958. Donc, voilà. Le vrai écart, je pense, si on est tout à fait honnête, c'est 7 ans. Et je ne vois pas comment on pourrait aller au bout de ça. D'ailleurs, il y a une dernière chose, je voudrais dire, à propos du refus d'Emmanuel Macron de démissionner. Il y a un moment où ça devient pratiquement ridicule, parce que si au moins le mec voulait rester là en disant, bon, ben, je vais rester là. Pour tenter le tout pour tout, pour, je sais pas, pour tout casser, voilà, pour faire toutes les réformes qu'on n'a pas fait, à fouera, on y va à fond, etc. Et sinon, tant pis, je dégage. Bon. Mais là, le type, on a l'impression qu'il veut juste rester jusqu'au bout pour être resté jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment pour le mec qui avait vendu l'idée de Startup Nation, d'innovation, de disruption, etc. C'est vraiment assez, assez pathétique, quoi.
On remercie Lucien Furca pour son don. C'est
Merci.
fini pour la cinquième. Soutien total et indéfectible au modèle historiographique.
Merci. Je pense qu'ils s'en sortent pas mal, en effet.
Lucien Furca, abonné depuis 34 mois. Et si demain Macron partait d'emblée sur un article 16 pour jouer la sidération, reprendre la main et passer un budget en force, en
Ah
armant
ouais,
la
là.
menace sur la stabilité de la nation si pas de budget?
Alors, c'est très honnêtement pas l'hypothèse que je privilégierais. Je pense que ça serait une catastrophe au plan social et politique. Je pense que la violence politique qui sortirait serait à proportion. Je pense pas qu'il y aurait de sidération du tout, hein. Je pense que ça serait véritablement perçu comme une provocation et là, je pense que la rue serait très vite très violente. Très vite très violente. Moi, ce que j'envisage pour demain soir, ce qui me paraît le plus plausible à ce stade, c'est pas de dissolution, on va voir, on va tester autre chose, c'est très important d'avoir un budget, on ne peut pas se permettre l'instabilité des dernières. C'est ça que je vois venir, notamment parce que ben, ceux dont il a demandé le conseil, que ce soit Yael Braun-Pivet ou Gérard Larcher, lui ont probablement recommandé de ne pas dissoudre parce qu'il n'aime pas ça. Elle y perdrait son poste, encore une fois. Ça. Donc, même si elle a réussi à se faire réélire la dernière fois, elle n'y arriverait peut-être pas une nouvelle fois. Et Larcher, lui, il est contre la dissolution parce que ça fait désordre. Donc, à mon avis, et je ne suis pas sûr qu'il ait envie de refaire le coup cavalier seul, de tout faire sauter. Alors, il va peut-être le faire, hein, encore une fois. Mais voilà, je suis 60 ou 70 contre 30 ou 40. Maintiennent des choses et nouvelles tentatives de Premier ministre et aux hypothèses minoritaires, la dissolution.
On remercie Thomas pour son don. Salutations épicées d'Alzari. Avez-vous lu Im Khaldoun et Golitsyn? Shalom sur vous et bisous. PS, on verra bien lequel de nos deux pays sera arabe avant l'autre.
Alors, je n'ai pas lu Ibn Khaldoun directement. J'ai lu Gabriel Martinez Gros sur Ibn Khaldoun et d'autres, mais surtout Gabriel Martinez Gros. Et j'ai lu Golitsyn, oui, tout à fait. Mais il n'avait pas vu ça.
On remercie Docteur Charlotte pour son don. Qui tombera en premier, France ou Royaume-Uni?
Ah, ça, c'est une grande question quand on voit ce qui se passe au Royaume-Uni. Je table encore sur nous, quand même. Je pense qu'on a quand même encore une tête d'avance, mais ils se donnent du mal pour rattraper, hein. Ils se donnent du mal pour rattraper. Et puis, rappelons qu'eux, ils ont des manifestations. Bah, déjà, ils ont des manifestations en cours. Mais en plus, ils ont un événement qui est prévu samedi prochain. Donc, ça risque d'être également assez agité chez eux là-bas.
On remercie encore Dr. Sherlock. Existe-t-il un scénario où Manu finit son mandat?
Ben, un scénario, on peut toujours tout scénariser. La question, c'est à quel moment ça devient très compliqué vis-à-vis du réel. Moi, je disais qu'il finirait pas son mandat. Alors, je le voyais se terminer plus tôt que ça, j'en conviens parfaitement. Mais je disais déjà qu'il finirait pas son mandat au début de son mandat. Et surtout, j'ai commencé à être à peu près sûr qu'il allait partir à partir du début 2023, c'est-à-dire la crise sur les retraites. Parce que c'est là qu'on a vraiment commencé à entendre dans les médias, chose que je répétais depuis un moment, sur les problèmes institutionnels en France, les problèmes de la Constitution elle-même. Et tant que personne ne les formalisait, c'était douteux qu'on s'attaque à la figure même, à la fonction de président de la République. Bon. Mais à partir de là, ça a commencé à être le cas. Ils ont commencé à en parler. Et donc, j'ai commencé à croire ça vraisemblable. D'autant plus qu'on a failli avoir une motion de censure à quelques voix près. Et il y avait du monde dans les rues qui cramait les poubelles, etc. Donc, on était assez proche des conditions que j'envisageais, qui sont celles d'une crise institutionnelle plus crise sociale, encore une fois. On ne remet pas le schéma moche ce soir, mais vous l'avez en tête. Et de toute façon, il est dans les derniers lives. Et honnêtement, il y a 2 ans, enfin, je pense que ceux d'entre vous, et que vous êtes assez nombreux à être là depuis 2 ans ou un peu plus, est-ce que vous vous doutiez qu'à ce stade, on en serait là ? En tout cas, est-ce que vous étiez sûr, simplement en écoutant ce que je disais, qu'à ce stade, on était là ? Je ne pense pas. Parce que beaucoup, vous deviez avoir des doutes en vous disant « Oui, on verra, ce que dit ce monsieur est très intéressant. Intellectuellement, c'est satisfaisant, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. » Depuis, on a eu une motion de censure. Enfin, on a eu une dissolution, déjà. On a eu 2 motions de censure, enfin, ou chute sur censure, c'est encore pire la chute sur vote de confiance ratée quand même, c'est encore une première fois. En moins d'un an, alors qu'il n'y avait aucun gouvernement qui était tombé depuis 60 ans, 63 ans même, c'est-à-dire depuis le début depuis 1962, depuis le début du régime. D'ailleurs, j'ai fait un mauvais calcul tout à l'heure quand je vous ai dit 7 ans, parce que si c'était, je comptais 62, vous voyez, malgré moi, parce que je prenais ça comme point de départ. Si on prend 58, il faut rajouter 4 ans. Donc en fait, il faudrait 3 ans pour dépasser la durée. Et la durée est déjà dépassée si vous retenez 58 et 1875 comme note. Mais c'est pas cohérent entre les deux. Bref, donc jusqu'ici, donc il y a quand même eu une accélération rapide ces 2 dernières années, clairement, et en particulier ces dernières années, et j'ai envie de dire chaque année qui passe accélère. Difficile de voir comment ça pourrait continuer à accélérer pendant 1 an sans qu'il saute. Et quoi, ça continuera à accélérer pendant 2 ans ? Ou bien ça n'accélérerait plus ? La situation se calmerait par miracle ? Par quel miracle ? Je ne vois pas comment, puisque le problème de l'absence de majorité en France, et il faut noter que la crise institutionnelle vient de là, vient du fait qu'il n'y a plus de majorité en dépit d'un scrutin qui était censé garantir qu'il y a un scrutin majoritaire, hein, qu'il y a une majorité, hein, faut quand même le rappeler. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas de proportionnel, mais on se retrouve quand même avec une assemblée qui a une gueule de proportionnel. Et cette assemblée, elle vient notamment, et c'est ça qui est important, je pense que c'est assez peu souligné malgré tout. Qu'est-ce qui fait que vous avez une rupture comme ça du système, de ce mode de scrutin majoritaire. C'est que malgré tout, ce mode de scrutin majoritaire, il est local. Il est local et le clivage politique actuel, la rupture, elle est géographique. Elle est entre le monde des villes et la France périphérique. Voilà. Et donc, vous vous trouvez tout simplement avec les 3 blocs que vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce sont 3 blocs géographiques. C'est les villes LFI, c'est les très grandes villes, essentiellement. D'accord ? L'électorat, c'est là qu'il est majoritaire. La bourgeoisie urbaine des villes moyennes, c'est plutôt centriste. Et la France véritablement périphérique, périurbaine et rurale, là, c'est Rassemblement National. C'est ça que disent les chiffres. Hein. Dans les grandes villes, c'est un mix, bien sûr, vous n'avez pas que des LFI. Vous avez LFI, mais disons que sur un spectre, plus vous allez dans la grande ville, plus vous avez du LFI, plus vous allez dans la France périphérique, plus vous avez du RN. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, à la fin, aboutit à un système qui a l'air d'être une représentation proportionnelle. C'est parce que le clivage est géographique. Le mode de scrutin ne fait pas fi de la géographie. Et donc, à partir du moment où vous avez un tiers géographiquement de la France, de la démographie française qui peuple les campagnes, etc., et l'espace périphérique qui est plutôt RN, un tiers et les deux autres tiers dans les villes et les villes moyennes respectivement et qui ont leur propre sensibilité, ben, même avec un scrutin majoritaire, vous vous retrouvez avec cette rupture-là. Parce que le fait que ce soit majoritaire n'empêche pas que vous aurez toute une partie du spectre où c'est toujours les mêmes qui arrivent en tête. Voilà. Le RN en France périphérique, dans les centres-villes bourgeois et la bourgeoisie urbaine, les centristes, et dans le centre-ville wannabe élite urbaine et les classes populaires, donc, en grande partie immigrées, des grandes villes, ben vous avez LFI. La rupture est là. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que, je disais, la situation ne s'apaisera pas toute seule. Parce que c'est le nouveau clivage. Ce clivage n'est pas résorbable rien qu'en faisant durer les choses. Parce que c'est un clivage qui est par rapport à l'ordre établi, comme toujours, dans lequel vous avez désormais les extrêmes, ce qu'on appelle les extrêmes, qui en fait sont les anticonformistes, c'est-à-dire les gens qui ne sont plus d'accord avec le cadre, parce que le système n'est pas bon, ces gens-là sont devenus quasi majoritaires. Or, pour qu'un système soit stable, il faut que les conformistes représentent 2/3 de l'électorat, à peu près. C'est 2 Français sur 3 de Giscard. C'est 2/3 des modérés, en fait. Il faut que tous ces gens soient à peu près d'accord sur le cadre, parce que ça fait une majorité écrasante qui calme les autres. Et donc les autres, c'est des populistes, ils gueulent dans leur coin, mais ça bouge pas. Quand vous êtes dans une situation où les gens en ont tellement marre du système qu'ils sont massivement anticonformistes, et donc que le champ véritablement des conformistes s'est réduit, et il s'est réduit pourquoi? Il s'est réduit parce qu'on est dans un moment élitiste du clivage, je renvoie aux vidéos et surtout aux bouquins sur le clivage, ben, dans ce cas-là, la seule moyen de résorber ça, c'est de renégocier le contrat social, de renégocier tout le compromis, c'est-à-dire de renégocier le système. Et comment est-ce qu'on renégocie le système? En faisant une révolution. Ça peut être une révolution politique, mais je veux dire, la révolution, c'est casser le système et le refaire. C'est ça, hein, la révolution. Donc à partir du moment où vous maintenez la stabilité parce que vous refusez l'hypothèse révolutionnaire, c'est ça qu'ils font, hein, quand ils vous parlent de stabilité. Ils vous parlent de stabilité, ça veut dire qu'ils refusent l'hypothèse révolutionnaire. L'hypothèse révolutionnaire, c'est on accepte d'être instable pendant un moment, le temps de renégocier. Ils refusent de négocier. Ça ne se réglera pas. Les gens ne vont pas se remettre à aimer le système parce que le système aura duré. C'est considéré qu'il y a une espèce de prurite émotionnelle de la part des gens qui ne sont pas contents. D'ailleurs, je suis persuadé que les élites pensent les gens comme ça. Quand vous voyez de la façon dont c'est Gérald Bronner qui passe son temps à flatter les élites comme ça, en leur expliquant qu'en gros, les gens qui sont aux extrêmes sont des imbéciles qui sont la proie de leurs émotions, etc., de leurs croyances, machin, truc. Ce n'est pas ça. La réalité, c'est que tout le monde est la proie de ses croyances déjà, les centristes comme les autres. Ça ne peut pas se résorber. Donc si ça ne veut pas se résorber, ça veut dire que ça ne va cesser d'empirer, au contraire. Parce que plus ça va, plus moins le système marche. Et moins le système marche, le système, il fonctionne aussi comment? Et c'est aussi pour ça qu'on est autant endetté. Comment il fait pour avoir autant de gens qui sont d'accord avec lui? C'est en les payant. Tout système fonctionne comme ça. Tout système fonctionne en avantageant la majorité qui le fait vivre, hein, ou qui y adhère. Bon. Sauf qu'il n'y a plus d'argent. Et vous voyez de plus en plus que l'argent est de plus en plus concentré vers toujours les mêmes. Hein. Les élites, les types qui font absolument n'importe quoi, l'INA, etc., on les voit sans arrêt, dans les médias, tout ça. Et c'est précisément ces gens-là qu'on essaie de dégager, d'ailleurs, hein, que la population voudrait voir dégager. Il y a scandale sur scandale, mais l'affaire Cohen-Legrand, etc., bref. Tout ça ne va pas se résorber. En plus, ça énerve les gens d'autant plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vote, et là, si on revote avec la dissolution, on le voit avec les projections sondagières, le bloc central se diminue encore. Mais le bloc central, c'est les gens qui sont d'accord avec le système, les non-anticonformistes. Donc, ça va continuer à s'aggraver. Et si, donc, ça va arriver jusqu'à quel moment? Le moment où ils ne seront plus que 10 au centre? Non, ça peut pas. C'est hors du champ des probabilités que le système puisse tenir aussi longtemps en étant au bord du précipice. Donc c'est pour ça que je ne vois pas comment ça pourrait tenir encore 2 ans. Mais bon, on attend déjà de voir où en sera la situation à la fin de la semaine.
On remercie Mitch pour son don.
Merci.
Une aide financière de grande ampleur peut-elle aboutir à un effondrement rapide du système social et le chaos sous moins de deux ans?
Ah ben ça, je pense oui. Hein. Comme ce que je disais sur la façon dont l'économie pourrait s'informaliser comme ça rapidement, c'est possible parce que, vous savez, c'est lié à ce que je disais à l'instant. À partir du moment où vous avez une telle majorité de gens qui sont anticonformistes, au sens politique du terme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'acceptent plus le système. Et à partir du moment où, et je pense que c'est ce qu'on est en train de voir, c'est monté très lentement depuis les Gilets jaunes, mais clairement avec Nicolas Kippé et tout, c'est quelque chose qui est sorti, avec ce que je vous expliquais lors du dernier live sur les influenceurs qui tiennent le même genre de propos que la bourgeoisie de droite, mais à l'égard des classes populaires, à destination des classes populaires, etc. Vous avez une prise de conscience qui est au-delà de la question politique, même purement LFI ou RN, etc. Vous avez une prise de conscience des gens du fait qu'ils sont majoritaires. Et d'autant plus, vous savez, c'est un truc que je vous avais dit avec la parlementarisation, ça, on a peut-être un peu oublié, mais je vous avais dit qu'un des effets de la parlementarisation, c'était de politiser le corps social. Parce que à partir du moment où vous enlevez des couloirs de l'Élysée et où vous mettez à l'Assemblée nationale le cœur du débat national, parce que les choses se passent non plus à l'Élysée dans les coursives, parce que le président n'a plus de pouvoir au moins, mais ça se passe à l'Assemblée nationale, et bien vous avez les débats. Les débats sont transparents, et de le fait est que depuis un an, on n'a jamais été, moi je n'ai jamais connu ça, on n'a jamais été autant abreuvé de débats parlementaires. Vous entendez ce que disent les gens. Vous savez ce qu'ils pensent, vous savez quel est le cœur du débat, et vous n'êtes pas tout seul. C'est le cas de alors je dirais pas la totalité de la population, vous avez toute une part évidemment de la population qui ne peut pas suivre tout ça. Mais vous avez une part de la population beaucoup plus importante que d'habitude, qui suit les débats, qui est capable de voir à peu près ce qui s'y passe, et qui a un avis sur la question. Beaucoup plus que d'habitude. Et les gens se forment en écoutant tout ça. Et ils prennent conscience des enjeux, quel que soit leur bord politique. Et donc, vous avez un peuple qui est beaucoup plus politisé. Et ça, c'est l'effet du parlementarisme. Encore une fois, c'était une des choses qui me désolait avec la Ve République, et je le disais, je l'ai écrit, c'est que ça étiole la culture démocratique parce que les gens ne pensent plus. Les gens reviennent à la culture de la monarchie absolue, qui est, en gros, vous attendez que le prince décide quelque chose. Vous avez un vague avis, voilà. Si vous aimez bien le prince, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, vous pensez que c'est ses conseillers qui sont méchants. Si vous ne l'aimez pas, vous pensez que c'est un tyran. C'est très binaire et ça ne va pas chercher loin comme débat. Ça ne tranche pas les questions. Là, on a un retour du parlementarisme, et donc, logiquement, on a un retour de la politisation de la population. Et quelque part, j'aurais dû m'en douter, parce que quand je vous disais que la crise sociale va péter l'année dernière, mais qu'il fallait attendre la crise sociale pour avoir la révolution. En même temps, je ne la voyais pas venir, mais c'est bête, j'aurais dû raisonner moi-même en me disant, puisque c'est l'exercice, mais peut-être que je l'avais dit d'ailleurs, je ne me souviens plus, mais des fois j'oublie ce que je dis, ou je l'avais peut-être suggéré comme hypothèse, en tout cas, et si je l'ai fait, j'ai eu raison, si je ne l'ai pas fait, j'ai eu tort, c'est qu'il fallait qu'il y ait un temps, ça a été l'année écoulée, qui repolitise les gens. Et je pense que le mouvement Bloquons tout, tous ces trucs-là, c'est un effet de ça aussi. C'est un effet de cette repolitisation. Et c'est pas un diable que vous remettez facilement dans sa boîte. Et donc, pour revenir sur la question particulièrement de l'effondrement économique, mais parce que ça lie à ça, ça veut dire que vous avez des gens qui ont pris conscience à grande échelle. Pas uniquement de « on est d'accord avec tel type ou telle idée politique », non, non. Ils ont simplement pris conscience qu'ils étaient dans le même bateau, qu'ils avaient un même rejet du système. Et donc, au fond, si vous êtes majoritaire, eh bien, il se met en place une espèce de conformisme anticonformiste, dans le sens où, et c'est ça qui fait que les ordres changent, c'est que les gens qui sont au pouvoir le veuillent ou non, le nouvel ordre, il se met en place. Et il se met en place tout seul contre l'ordre existant, au bout d'un moment. Quand il est majoritaire, c'est naturel qu'il se mette en place contre l'ordre existant de lui-même. C'est-à-dire qu'il crée un alter-ordre. Et cet alter-ordre, il peut exister dans l'économie. Et dans l'économie, il consiste tout simplement à dire « vous ne voulez pas nous écouter ?» Ben tant pis, on va faire autrement et on va faire de notre côté. Et on s'en fout, on représente 2/3 de la population. Et c'est nous les forces vives de la population, c'est nous qui travaillons, qui payons des impôts. Donc croyez bien qu'on peut se débrouiller entre nous. Hein. On n'a pas besoin des ministres, on n'a pas besoin de France Inter pour nous dire comment est-ce qu'on fait tout ça. On le fait déjà et c'est avec ça qu'on vous paye. Donc on va le faire de notre côté et puis on vous donnera plus l'argent. Hein. Grosso modo, c'est ça l'idée que je mentionnais avec la TVA. Et ça, une fois que c'est lancé, que ça devient culturel, que ça devient même un signe d'appartenance, ça peut aller très très vite. Et dans un pays qui est dans la situation budgétaire qu'est la nôtre, si vous avez un effondrement, même relatif, même de 10-20% des recettes de TVA, mais ça vous fait un trou qui est énorme. À la fin, ça vous fait un trou de 30-40 milliards à trouver. D'accord ? Alors qu'on en manque déjà. Et la dégradation, vous la prenez. Et je vous rappelle que si on se prend une dégradation, notre dette ne sera plus achetée par tout un tas d'institutions. parce qu'ils n'auront plus le droit, parce qu'ils n'ont pas le droit d'acheter en dessous de certains seuils. Alors peut-être qu'elles changeront leur seuil à terme, qu'il y aura des adaptations, je ne sais pas, mais ça va secouer. Et donc, c'est là que vous avez un phénomène d'emballement, si vous voulez, et que la crise peut arriver extrêmement vite. Tout d'un coup, vous pouvez faire un mini défaut de paiement, et puis votre ça se redégrade, parce que dans deux mois, c'est Standard & Poor's qui va changer la notation. Et grosso modo, c'est tous les 6 mois qu'on est renoté. Donc, moins de 2 ans, ça peut aller très vite. Hein. Vous êtes renoté 4 fois. Hein. Si ça commence à se dégrader, après, ça peut aller très fort. Hein. Surtout qu'encore une fois, il y a d'autres choses qui jouent. Hein. Il y a la guerre, il y a des choses qui font cet effet-là. Donc oui, l'effondrement rapide du système, il peut venir, encore une fois. Regardez les exemples de systèmes qui se sont effondrés. Regardez l'URSS. Hein. Regardez l'URSS, la vitesse avec laquelle le truc, tout d'un coup, ça s'évapore comme ça. Les gens se retrouvent à la rue, ils votent plus. Vous avez la moitié des soldats qui vont se prostituer parce que... Véridique, hein, moi je me souviens, quand on a un peu de bouteille, on se souvient. J'avais lu des articles à l'époque, c'était dans Paris Match, Poids des mots, le choc des photos, qui racontait que, comme ça, sur la place Rouge, vous aviez des soldats qui allaient se prostituer. Parce qu'ils avaient, ça avait plus un liard, c'est horrible la situation. Donc si vous plongez comme ça en plus dans une récession parce que la consommation baisse, parce que les gens qui avaient des aides sociales et qui consommaient avec ça ne les ont plus ou en ont moins, c'est spirale. Et je rappelle, je l'avais fait des émissions là-dessus sur l'effet économique d'une révolution, généralement une révolution c'est une récession de 15% et une hyperinflation. Alors, hyperinflation, à voir comment ça serait avec l'euro, mais enfin, encore une fois, je pense que la France va embarquer l'Europe dans le truc. Donc je pense que la catastrophe, oui, peut arriver. L'effondrement rapide du système, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on plonge dans Mad Max, hein, mais ça peut vouloir dire que vous plongez dans la Russie des années 90. Une Russie des années 90 moins misérable, parce que somme toute, on est un pays qui est plus développé, avec des meilleures infrastructures, etc., que ne l'était l'URSS. Mais quand même, ça fait un choc. Donc oui, les choses peuvent aller très très vite, surtout si c'est les mauvais chemins qui sont pris, notamment par le président de la République.
On remercie Alban pour son 29e mois d'abonnés. L'invincible 5e République tremblote pour revenir plus fort avec Xavier Bertrand, Manuel Valls, Gabriel Attal et tous nos champions de la New Gen. Bisous à Thomas et Marinani.
C'est possible que ça essaie de revenir avec Xavier Bertrand. Mais là, enfin, personne n'aime Xavier Bertrand. C'est encore pire que Bayrou. Quoi. Bayrou, au moins, il avait un truc qui ça amusait des gens. Quoi. Mais Xavier Bertrand, c'est même pas ça. Quoi.
On remercie Dr. Shalock pour son 34e mois d'abonnement. Cette fois, merci. C'est sûr, il n'y aura rien. Alors,
je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il va y avoir quelque chose.
On remercie Dominique pour son don. La situation en Ukraine peut-elle devenir un coup de pouce ?
Un coup de pouce ou un coup de grâce pour la situation ? Oui. Ben, encore une fois, je rappelle que dans 4 jours maintenant, il y a le début de l'exercice Zapad en Biélorussie. Est-ce que ça prépare un sale coup des Russes dans les semaines qui suivent, comme ça a été le cas en 2022 ? C'est possible. En tout cas, la situation en Ukraine, ça ne se passe pas très bien. À voir ce que Trump va faire aussi. Il a reparlé de possibles sanctions, mais tout ça traîne. C'est faux de dire qu'il n'a rien fait, puisqu'il a fait les sanctions contre l'Inde, et malheureusement, si vous voulez, c'est aussi le problème, c'est que les gens lui reprochent de rien faire. Il a fait quelque chose, à mon avis, il avait raison, des sanctions sur l'Inde qui achète beaucoup de pétrole russe, et tout le monde lui tombe dessus parce qu'il a détourné l'Inde des États-Unis. Oui, mais le truc, c'est que c'est ça, si vous voulez vraiment taper, parce qu'il faut se rendre compte de ça, si vous voulez vraiment faire mal à la Russie, il faut balancer un régime de sanctions secondaires. Et un régime de sanctions secondaires, vous allez taper sur un tas de pays que vous vouliez garder avec l'Occident dans le camp contre la Russie et la Chine. Et c'est tout le défi. C'est pour ça que les Américains ne l'ont pas fait jusque-là. Mais il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Alors, on peut être dans le camp qui dit « bah oui, il faut continuer comme ça, il ne faut pas faire de sanctions secondaires parce que c'est trop dangereux », mais il faut avoir conscience des choses, il faut avoir conscience pourquoi on le dit. Mais dans tous les cas, la guerre a un effet accélérant, ça me paraît certain, comme elle l'a comme elle l'a en Allemagne, comme elle l'a sans doute aussi au Royaume-Uni.
On remercie le Matching Pot pour son dos. Bonsoir Fabri, j'ai voulu envoyer mes 250 viewers sur ton live via redirection, mais il faut ton autorisation. Bisous, excellent ton travail.
Alors merci, et je ne sais pas comment il faut donner cette autorisation.
Je transmets ça pour qu'il puisse voir.
Ouais.
On remercie Alain Julieron pour son don. Un très grand
merci.
Don.
Merci. Merci beaucoup.
On remercie Philippides Fabridaski pour son don.
Fabridakis.
Est-ce qu'on peut dire que les finances publiques sont la question politique unique, puisque c'est seulement au moment où elle revient que ça bouge, et que rien ne se passe avant Bayrou pendant 10 mois?
Ben, c'est le nerf de la guerre. Hein. Vous savez, une des choses que je dis depuis longtemps, depuis mes toutes premières émissions, une révolution nationale se déclenche quand vous avez deux choses. Un régime qui est discrédité, qui a perdu sa légitimité, et une crise financière. Si vous n'avez pas la crise financière, enfin la crise financière budgétaire, c'est-à-dire des finances de l'État, si vous n'avez pas la crise financière, un État qui est discrédité peut se maintenir en utilisant le pognon, tout simplement. Ce qu'on fait depuis un moment. Macron avec le quoi qu'il en coûte, par exemple. Si vous avez un État qui est en crise financière lourde, mais qui est encore légitime, il peut activer le ressort de l'effort patriotique pour redresser les comptes publics. Mais si vous avez et le discrédit et les finances, c'est la chute assurée. Donc effectivement, les finances, je ne sais pas si c'est la question politique unique, mais à partir du moment où elle ferme tout un tas de portes en empêchant d'acheter des soutiens pour le régime, ben forcément, la seule option que vous avez, à partir de là, c'est d'être un très bon régime qui a l'assentiment populaire. Si vous n'êtes pas un très bon régime, ben vous coulez parce que vous n'avez pas de quoi payer la paix sociale, tout simplement.
On remercie encore Dr Chaloc pour son troisième don. Si tout système fonctionne en avantageant la majorité, qui le fait vivre? Est-ce qu'on aura bientôt un système qui avantage Nicolas?
Ben, a priori, on aura la mise en place d'un système qui réavantage une majorité qui est alternative. Et là, je renvoie, je ne sais plus si c'était à la dernière émission ou celle d'avant, que j'avais évoqué, vous savez, les successions de clivages pendant la Révolution, en partant du même de Mouly, en disant que il va y avoir une transformation dans laquelle je pense que... Alors, beaucoup de gens se moquent de moi depuis des années quand je dis ça, surtout du côté droit de l'échiquier politique, mais je le maintiens. Quand je dis que je pense que dans le cadre de la Révolution, il va y avoir une intégration accrue de toute une partie de la population immigrée des 50 dernières années. Il y a une partie qui peut-être partira, parce qu'elle n'est pas, mais la partie qui est intégrée va s'intégrer encore plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de fusion, en tout cas politique comme classe, avec, on va dire, les Nicolas, c'est ceux qui parlent du Karim qui paie, mais le Karim qui paie, il existe aussi. Hein. Vous avez une partie de la population immigrée qui travaille, j'en connais, hein, et qui paie comme Nicolas. Simplement, c'est des Nicolas d'origine immigrée, si vous voulez. Et tous ces gens, ça commence à faire du monde. Si vous prenez ensemble toute la population active qui travaille, qui est la population essentielle, on va dire, celle qui fait tourner le pays, il y a une part de population immigrée dedans. Et tout ça, ça fait une possible majorité alternative, en tout cas pour fonder un nouveau régime, je le pense, en renvoyant les boomers, les retraités qui regrettent leur bonne retraite dans le camp réactionnaire, et en mettant la population immigrée ou autochtone, qui wannabe élite, mais qui n'y arrive pas parce que c'est des gens qui ont fait sociaux, à l'extrême gauche, en voulant continuer à faire sauter le système. Mais ça n'intéresse pas ni les Nicolas ni les Karim Kipé de faire sauter le système pour faire de la place aux étudiants sociaux. Ce qui les intéresse à eux, c'est que les gens qui travaillent et qui fondent des familles puissent le faire efficacement. Et je pense que vous avez une majorité Nicolas possible. Je ne pense pas que vous ayez une majorité étudiants en sociaux possible. Vous voyez, donc pour moi, c'est le fondement de l'ordre établi de demain, quoi, tout ça.
On remercie Gindot pour son don.
Merci.
Vu la différence d'opinion entre Nicolas et les dirigeants du 10 septembre, faut-il s'attendre à une révolution à gauche toute? J'observe que la manif veut désormais traire Nicolas encore plus à sa quête.
La gauche, c'est la gauche qui fait la révolution, c'est pas la droite. Il ne faut pas attendre que Nicolas fasse la révolution, Nicolas il ne fera pas la révolution. Précisément quand on lui dit il y a grève, Nicolas il dit je peux pas, je travaille. Ce n'est pas dans l'esprit de la droite de faire des révolutions. La droite n'est pas révolutionnaire dans son essence. Vous pouvez avoir une fraction anticonformiste, mais enfin, j'ai envie de dire, je vais vous dire, la droite, quand elle est révolutionnaire, en fait, c'est la droite de gauche par rapport à la droite. Mussolini, le fascisme, c'est un mec qui venait de la gauche à la base. Il s'est droitisé, mais il avait un esprit révolutionnaire à la base. Hitler, c'est un marginal. Il faut se souvenir de ça. Le mec était un marginal. Le mec avait été clodo avant la Première Guerre mondiale. Il faisait rien de sa vie. C'était un artiste raté. On n'était pas loin de l'électeur et les filles hein, chez Hitler, sociologiquement, j'ai envie de dire. Après, il a basculé. Il est allé chercher des trucs par anticommunisme. Mais c'était... comme Mussolini. Mussolini, c'était un type de gauche, mais qui n'était pas communiste, ou qui refusait d'être communiste. Donc forcément, ça le mettait à droite de la gauche, mais ça ne le mettait pas à la droite de la droite. Simplement, c'était un anticonformiste, et donc il a basculé dans le camp anticonformiste de droite, et ça percolé, ça fait synthèse. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout ça pour dire que ceux qui cassent véritablement un système, qui veulent casser un système, c'est des gens qui ont une sensibilité de gauche, en général. Ils peuvent s'appuyer sur les anticonformistes, qui voient l'occasion, les anticonformistes de droite, qui voient l'occasion d'essayer d'obtenir un basculement, mais c'est la gauche qui casse tout. C'est elle qui sert de brise-glace, si vous voulez. La droite, ensuite, elle arrive, elle récupère et elle crée l'ordre de demain, si vous voulez. Mais c'est toujours la gauche qui casse. Donc, on ne peut pas reprocher à la gauche de casser, et si vous êtes de droite... mais que vous sentez, comme c'est le cas de Nicolas, que le système est bloqué et joue contre vous, vous n'avez que deux postures. Soit vous refusez qu'on casse le système, mais à ce moment-là, vous ne vous plaignez pas, parce que c'est le système, il est comme ça, et ce n'est pas réformable. Soit vous admettez qu'il faut casser le système, et que donc que la gauche, qu'il faut laisser la gauche casser le système avant de pouvoir faire autre chose. Il n'y a pas 36 solutions. C'est comme ça, et ça se passe comme ça à toutes les révolutions. Vous avez la gauche qui casse, vous avez la droite qui reprend les choses en main, qui prend des apports de ce qui a été fait par la gauche modérée et qui a du sens, et qui vire tout ce qui est fait par l'extrême gauche. D'accord ? C'est la révolution avec... Je veux dire, les députés du tiers-État, ce n'étaient pas les sans-culottes. Hein. Les sans-culottes, c'était les petits artisans de Paris, la population, etc. C'était vraiment la plèbe hein, par rapport à la bourgeoisie. La bourgeoisie parisienne, c'était la garde nationale. Hein. Ce n'étaient pas les sans-culottes. Hein. Les mecs, ils devaient payer leur équipement pour... on n'était pas sur les mêmes, hein, d'accord ? Bon, donc il faut bien se rendre compte de ça. Donc les mecs qui se sont lancés à l'assaut de la Bastille, ce n'étaient pas les mêmes que les députés du tiers. Parmi les députés du tiers, vous en aviez qui étaient favorables à ce qui s'est passé à la Bastille en disant « ça sera une excellente occasion de faire passer ce qu'on veut ». Vous en aviez une partie qui disait « oh là là, si on commence à tout casser, pas respecter attention, les propriétés, etc. » Mais vous aviez pratiquement personne qui disait il faut la violence, il faut instaurer la République, etc. Non, dans la première Assemblée nationale, vous n'aviez pas ça. Hein. C'était pas l'ambiance. Hein. Donc il faut bien se rendre compte que c'est pas parce que le mot d'ordre de la rue est dans un sens. Alors bien sûr il y a un danger. Hein. Il y a un danger parce que quand il y a une révolution qui commence, vous savez pas à quel moment vous allez empêcher les révolutionnaires, vous allez récupérer le pouvoir, vous allez récupérer les rênes du truc. Donc il y a toujours un risque en laissant la gauche casser les trucs qu'elle arrive temporairement au pouvoir. Et qu'elle fasse de très très gros dégâts. C'est possible, hein ? La révolution de 1917, ça a duré pendant un moment. Ça a duré aussi pendant... Ça a duré moins longtemps, mais ça a duré aussi en France, avec la terreur, la guerre civile, etc. Ça a duré en Espagne, hein, pendant plusieurs années. Donc il y a un danger. Mais il faut bien comprendre que le danger, c'est... Soit vous courez ce risque-là, soit vous restez sur le même système. Il n'y a pas d'alternative. L'idée d'arriver à convaincre les gens de faire les réformes, etc., ça ne fonctionne pas. Je ne connais pas de cas qui fonctionnent comme ça. Voilà. Sauf peut-être chez les Scandinaves, ils ont fait des révolutions nationales très, 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 très policées, mais bon, les Scandinaves, c'est toujours un peu particulier. Voilà.
On remercie Alexandre Lebry pour son don.
Merci.
Il y aura une confrontation directe entre la France périphérique et la France des banlieues.
Ça peut arriver en cas de... par morceaux, en cas de guerre civile. Et je rappelle que si on a une situation en France qui pourrit, alors que vous avez la situation internationale aussi qui s'aggrave, je rappelle que la France, comme d'ailleurs ça avait été le cas de l'Espagne, hein, risque de devenir, à partir du moment où elle sera un État failli ou partiellement failli en période de révolution, risque de devenir la proie, le terrain d'une guerre par proxy entre ses ennemis. De la même manière qu'en Espagne, vous aviez les Soviétiques, les Italiens, les Allemands qui étaient venus se battre, et les brigades internationales, ça peut être le cas en France aussi. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les Russes, j'en ai parlé depuis un moment, qui s'arrangent pour faire couler le pays. C'est pas, faut pas dire, machin, ah, c'est les Russes, vous savez que je suis pas pour anti-russe que je sois dans le contexte de la guerre mondiale. Je ne suis pas complotiste anti-russe en voyant la main des Russes partout et en disant que non, je suis tout à fait sérieux. La Russie, c'était dit par notre chef d'état-major des armées, considère que la France est son principal adversaire sur le continent, ce qui est normal quand vous voyez tout ce que Macron essaie de faire pour bloquer la Russie, ou en tout cas pour donner l'impression qu'il essaie de jouer un rôle en Ukraine. C'est notre ennemi en Afrique. C'est l'allié de l'Algérie avec qui on a des déboires, et elle aurait tout intérêt à ce que la France, donc, qui est une puissance militaire solide sur le continent, contrairement à l'Allemagne, s'enfonce dans les troubles intérieurs pour être neutralisée. Donc évidemment que la Russie interviendrait pour nous bloquer. Il ne faut pas se poser de questions, c'est les Russes, hein, c'est logique, hein, action parfaitement logique. Vous avez les Algériens aussi qui pourraient se démerder pour essayer de mettre du bazar chez nous pour une raison quelconque, ne serait-ce que pour plaire aux Russes, et puis tout simplement pour faire chier aussi, hein, c'est bien dans leur genre. Tout ceci peut nourrir une guerre civile en France, et à ce moment-là, vraisemblablement qu'effectivement l'état des forces pourrait donner lieu, mais alors je pense pas à une confrontation générale des banlieues, parce qu'encore une fois c'est à inscrire dans le clivage dont je vous ai parlé, où il y a toute une partie de la population des banlieues, etc., qui ne veut pas ça, quoi. Donc, il y aurait plutôt... ça serait plus une mêlée, si vous voulez, où je pense qu'effectivement, peut-être en France périphérique, il ne se passerait pas grand-chose, ça serait plutôt les bases arrières, et que, pour le coup, les combats auraient lieu essentiellement dans les villes. Ouais. Voilà.
On remercie Bertrand de Tresse. En quel montant de don ira manifester Philippe et sous quelle pancarte ?
Ah, j'ai pas réfléchi ça. Il aurait fallu que j'y réfléchisse avant. Léo sera à Paris, lui, le 10 pour raison professionnelle. J'avais hésité. Je m'étais dit qu'on pourrait y aller pour essayer de faire un vlog sur place, vlog Révolution. Mais je peux pas parce que j'ai. Alors c'est con. J'ai des audiences. Alors j'ai une audience le matin où je dois aller faire un renvoi. Je suis pas sûr que je vais travailler beaucoup le reste de la journée. Je serai sans doute à essayer de prendre des informations sur la façon dont les choses se passent. Par contre, moi personnellement, j'ai jamais été très manifestation. J'ai jamais manifesté pour rien en fait. Chaque fois que je me suis trouvé dans une manifestation par hasard ou parce qu'on m'y avait traîné, j'avais un regard vachement extérieur sur ça. Je n'arrive pas à faire partie de la foule. Du coup, c'est une expérience toujours assez désagréable pour moi. Je trouve ça ridicule. Alors, je m'en vais. Mais je soutiens.
On remercie Jim Dog pour son deuxième don.
Merci.
Quels points idéologiques resteront pendant la récupération de la révolution par la droite ? Si on compare à Napoléon qui avait récupéré des principes révolutionnaires égalitaristes, Ancien Régime. Merci, Ancien Régime.
Ah ben, oui, alors si on prend Napoléon, de toute façon, c'est assez simple. Qu'a récupéré Napoléon de la Révolution ? Il a récupéré l'abolition de la société d'ordre. De toute façon, il n'a pas restauré le clergé, la noblesse et le tiers-état, ça c'était fini. Et surtout, en gros, ce qu'a conservé Napoléon, c'est le code civil, quoi. Vous pouvez considérer que ce qu'a conservé le code civil, c'est ça. Et pour le coup, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire c'est un droit égalitariste, le même droit pour tous, qui emporte un certain nombre de transformations importantes, hein, puisque dans le code civil, vous avez toute la partie droit des successions. Et la partie droit des successions, ça impliquait également l'importation de l'idée de réserve héréditaire, c'est-à-dire qui existe encore, hein, en droit français, c'est-à-dire le fait que chaque enfant avait sa part. On n'était plus sur le droit d'aînesse, que les gens avaient tendance à imiter sur ce que faisait la noblesse, ça a été supprimé. C'était extrêmement important. Vous savez, souvent, on ne parle pas de ça, mais il y avait une inégalité entre les enfants. l'aîné était clairement avantagé par rapport aux autres. Ça, c'est une chose qui disparaît avec la Révolution française. L'égalité des héritiers, c'est la Révolution française qui l'instaure. D'ailleurs, pour ça que vous aviez beaucoup de cadets dans les révolutions françaises, parce qu'ils avaient intérêt à ça. C'est peut-être un des plus gros apports de la Révolution, dont on ne parle pas, mais sociologiquement, et dans le corps de la société, ça a changé énormément de choses. Énormément de choses. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que Napoléon a gardé, par exemple, dans le Code civil. Extrêmement important. Et donc, nous, ça serait... Et puis, il a gardé la suppression des corporations, l'interdiction des coalitions, d'ailleurs, ce qui n'était pas le mieux, parce que du coup, il a créé le livret ouvrier, qui a été un instrument d'oppression de la classe ouvrière pendant tout le XIXe siècle, mais qui n'existait pas chez les pays voisins, en tout cas pas à ce niveau-là. Mais donc, voilà, alors, ce qui resterait, là, ce qui survivrait, c'est probablement le fait de revenir, par exemple, sur le régime de retraite tel qu'il est, de revenir sur un certain nombre de systèmes, notamment par exemple la représentativité obligatoire des syndicats, leur rôle dans le système social, peut-être notamment les organismes paritaires comme l'URSSAF, des trucs comme ça, des choses qui seraient corrigées. Ça sera ce genre de choses, je pense, qui resteront dans l'ordre d'après. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont quand même assez fondamentales au système. Hein. Ça fait pas, c'est pas très glamour. Mais c'est très important sur la structure socio-économique du système. Ça, c'est des choses qui devraient rester.
On a fini pour les questions d'en. Est-ce que tu souhaites des questions choix?
Allez, pose-moi deux petites questions choix, après on va se coucher.
Alors. La bête du Gévaudan, le discours de Macron de demain a-t-il des chances de ressembler à celui de Louis XVI le 23 juin 1789 ?
Alors il faut que je revoie le détail du 23 juin, ça devait être son discours en réaction à la proclamation de l'Assemblée nationale, et je n'ai plus en tête ce qu'il disait. Alors c'est intéressant, je vois le parallèle, parce que ça serait considéré que ce refus de confiance à Bayrou, c'est une sorte de nouveau serment du jeu de paume, hein, parce que c'est là le truc, et donc le véritable début de la chute. Ah oui, il y aura une question de Tipeee, je vois quelqu'un qui dit, il ne faudra pas que je l'oublie, je vais aller la voir juste après. Et alors, oui, donc... Je suis en train de me repasser le truc pour le voir. Le roi déclare que le clergé est prêt à faire des sacrifices à condition que rien de ce qui touche la religion ne soit changé dans son accord, ce qui suppose le maintien des dîmes. Il admet que les impôts et les emprunts soient votés par les états généraux qui pourront établir le budget, consent à l'égalité devant l'impôt, la liberté individuelle, la liberté de la presse. Ah oui, c'est vrai ça. Et à la création dans toute la France d'états provinciaux. Il donne son accord pour la réorganisation de la justice et des douanes. Voilà, donc il avait lâché plein de lest. Et son discours se termine par... Si vous m'abandonnez dans une telle entreprise, seul je ferai le bonheur de mes peuples, ce qui semble impliquer la dissolution des États généraux. Le roi ajoute, je vous ordonne, messieurs, de vous séparer tout de suite et de vous rendre demain matin chacun dans les chambres affectées à votre ordre pour y reprendre vos séances. Ce à quoi le tiers État avait refusé de le faire, hein, bien sûr. Voilà, donc, excusez-moi, je me le remettais en tête. Est-ce que ça pourrait ressembler à ça? Ça ressemblera à ça le jour où... Peut-être, si jamais il nous fait un truc du genre « bon, écoutez, il va falloir bouger si je vais nommer un nouveau truc et si jamais le Parlement ne fait pas de budget, je ferai un article 16 », là, ça ressemblerait à ce que dit Louis XVI à la fin. À mon avis, sans aller jusque-là, s'il refuse de dissoudre et de démissionner et qu'il dit « je vais nommer quelqu'un d'autre », etc., ça tient pas mal de ça, quand même. Hein. Ça tient pas mal de ça. Ouais. Autre question ?
Oui, la dernière. Comment vois-tu la suite dans un mois ?
Celle-ci, je pense que c'était un peu le sujet de l'émission. Hein. J'en ai parlé, ce qui se passait sur la destitution et tout. J'ai dit dans quelques semaines, quelques mois. Dans un mois pile, j'aurais du mal à vous faire plus précis. Hein. Alors par contre, oui, question qui a été posée sur Tipeee. Bonsoir, dans le parcours historique d'une société, est-ce qu'il y a des moments où la justice est laxiste et d'autres moments où la justice est très sévère ? Est-ce que ça dépend de l'état historique ? La justice française actuelle est-elle laxiste ou sévère ? Et dans quelle direction va-t-elle évoluer dans les années à venir ? Alors, c'est pas trop le sujet de l'émission de ce soir, mais bon, pour répondre en deux mots, Oui. À fur et à mesure que la société s'homogénéise, la justice a tendance à devenir de moins en moins sévère. Encore qu'il faudrait que j'affine ça, parce qu'il semble que sous l'Ancien Régime, on recourait plus souvent à la peine de mort qu'au Moyen Âge. Donc il faudrait que je vérifie ça. Mais peut-être aussi que parce que la société était structurellement, en tout cas à l'échelle du pouvoir, plus hétérogène. Sous l'Ancien Régime, qu'elle n'était très localement dans l'exercice du pouvoir au Moyen Âge. Et quand vous avez une société très homogène, on a tendance à être plus indulgent avec les membres de la société. Pourquoi? Probablement parce que les gens se sentent une proximité. C'est la même chose que pour les systèmes sociaux, de solidarité sociale, je veux dire. Se sentent une proximité familiale presque avec les gens, en disant que culturellement, ils en sont tellement proches qu'ils considèrent presque les gens ou les autres membres de la société comme des membres de leur famille étendue. Dans ce cas-là, vous êtes moins favorable à la peine de mort, d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard si la justice française s'est considérablement adoucie après les années 1950, qui sont vraisemblablement le moment où la France est arrivée à son pic d'homogénéité ethnoculturelle dans la population. Est-ce que la justice française actuelle est laxiste? Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'elle a tendance à devenir plus sévère dans ses textes, dans les recommandations et dans l'action des magistrats. Mais c'est une justice plus sévère mais impuissante dans la mesure où notamment le nombre de places de prison, tout ça, l'appareil ne suit pas. Donc c'est un peu une sévérité impuissante qui a tendance à se mettre en place et qui en pratique ressemble à du laxisme, mais dire juste laxisme, ça permet pas de comprendre où est le problème et donc ça permet pas de le régler. Donc il faut savoir bien l'analyser. Voilà, je pense pas qu'il y avait d'autres questions sur Tipeee. Alors, si, il y a quelqu'un qui me dit, cher monsieur, vous n'êtes pas sans ignorer. Alors, je suis sans ignorer, justement, c'est-à-dire que je sais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir, la formule. Bref. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'une république des conseils a également vu le jour lors de la révolution 1918 dans le Reichsland Elsaß-Lothringen, lequel a malheureusement fini annexé par la France. Or, vous ne mentionnez uniquement que la République des Conseils de Bavière. Merci de bien vouloir rappeler l'ensemble des vérités historiques. Oui, effectivement, il y a eu. Mais bon, comme ça a été annexé par la France, ça a pas eu le même effet sur la Révolution, allemande. L'effet de la République des Conseils de Bavière a été considérable sur l'Allemagne, ne serait-ce que parce que Hitler était à Munich à ce moment-là, et donc qu'il a vu tout ça et qu'il a vécu le danger communiste. Donc c'est pour ça que je parle surtout de ça, et que par ailleurs, par la suite, la Bavière était toujours intégrée dedans. Et comme je fais surtout ce parallèle pour comparer le rôle de la France dans l'Union européenne, forcément l'important c'est qu'il faut prendre une possession qui était à l'intérieur de l'Allemagne. Parce que bon, vous avez eu aussi la révolte spartakiste au même moment à Berlin, par exemple. Voilà. Mais effectivement, ça fait toujours bien de souligner que dans l'Alsace-Lorraine, il y a également eu le même genre de soulèvement. Voilà, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Non. Bah écoutez, mon cher Iruma, mes chers amis, je vais vous laisser là. Merci pour tous vos dons pour les questions. Pour ceux qui veulent suivre la chaîne et la rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à booster, hein, très important. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le trouver sur l'ordinateur. Moi, j'ai l'impression que ça ne marche toujours pas sur l'ordinateur, mais sur téléphone, ça fonctionne, de mettre un boost pour favoriser la diffusion de la chaîne. Et n'hésitez pas à nous soutenir si ça vous intéresse et si vous voulez encore nous avoir toujours là pour être motivé pour faire d'autres lives dans la semaine pour suivre au plus près l'actualité. Merci à tous, bonne soirée et vous laissez pas faire.